Alors, on fait une interview particulière et un peu spéciale. Alors, il y a du monde autour de la table à Divergence. Alors, on a des habitués. Il y a Françoise Vernat de
bonjour,
la Marseillaise.
Enchantée, bonjour à tous.
Oui, par Marseillaise Hebdo, qui vient nous voir souvent le lundi. Mais là, elle a décidé de rester un peu plus longtemps dans les studios. On a deux représentants du SCUM. Donc je le laisse nous dire bonjour.
Bonjour.
Alors, le SCUM, c'est le syndicat de combat universitaire montpelliérain.
De Montpellier,
voilà. Et vous êtes toujours à la cœur, je dirais, et à la pointe des combats, et Dieu sait si on a sur le domaine universitaire. Et puis on a un habitué aussi, alors là un habitué, c'est Serge Rakasaki.
Bonjour.
Qui vient représenter, comme je le dis à chaque fois, la CGT 34, mais aussi l'ensemble du mouvement syndical qui est de plus en plus uni. C'est incroyable ce qui se passe. Alors évidemment, vous en doutez bien, de quoi va-t-on parler? On va parler d'une journée, pour commencer, d'action, qui débarre donc le mardi 7 mars. Retenez bien cette date. Le mardi 7 mars 2023, c'est le début de quelque chose. Peut-être qu'on va demander à Serge en quelques mots de nous dire quels sont les enjeux de ce 7 mars.
Et après plusieurs journées de grève et de manifestations extrêmement importantes, on a constaté que le gouvernement restait toujours aussi sourd à ce que disait l'intersyndicale, mais aussi une majorité de la population qui continue à dire, sondage après sondage, qu'elle est opposée à son projet. Et donc l'intersyndicale a décidé d'un set où tout s'arrête. Donc un mot d'ordre extrêmement important, extrêmement fort. Et donc, le 7, on va... Alors, pour ce qui est de la CGT...
Oui, bien sûr, on va parler d'abord...
Voilà, on va à la fois appeler à la grève le 7, mais on avait déjà décidé, d'appeler pour le 8, journée de lutte internationale pour le droit des femmes. Donc, on appelle à reconduire le 8. Alors, donc, le 7, pour nous, tout s'arrête. Le 8, on continue. Et s'ils n'ont toujours pas compris, le 9, on ne s'arrête pas.
Alors, on a bien compris. Là, on est passé à un autre stade, Françoise.
Hein. Oui. Disons que ça sera, si je compte bien, la 6e journée de mobilisation. Mais on monte d'un cran. Et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé l'intersyndicale au moment où a été posée cette journée du 7. L'après mobilisation, on s'attend à énormément de monde. Est-ce qu'on peut faire aussi un point sur les préavis de grève dans les entreprises? Parce qu'il y a ce qui se voit dans les manifestations.
Dans la rue, oui.
Et puis, il y a aussi des mouvements de grève dans les entreprises. Où on en est, on va dire, dans les entreprises héraultaises?
Juste avant cette journée.
Est-ce que les salariés répondent présents?
En tout cas, ce qu'on constate, nous, c'est plus d'appels à la grève pour certains en préavis reconductible. C'est le cas à la SNCF, dans l'énergie, mais dans d'autres secteurs moins habituels. Puisque ce matin, par exemple, les courriers du midi étaient déjà en grève, liant la question des augmentations de salaire et la question des retraites, que jeudi dernier a commencé une grève reconductible dans les bases logistiques d'Intermarché, donc la base de Béziers était à l'arrêt aussi sur la question des NAO, mais aussi la question des retraites, et donc à la fois des appels plus nombreux, mais aussi avec des caractéristiques nouvelles qui intègrent à la fois la question des salaires, mais aussi la question de la reconduction, et donc on s'attend effectivement... La question de demain, là, la réussite sera au rendez-vous. On appelle maintenant à reconduire le mouvement, on n'a pas de doute. Par exemple, les Nicolins appellent sur tous les sites à la grève. On sait qu'on approchera près de 100% de grévistes, par exemple demain, sur les différents sites du groupe Nicolins. C'est plus de 1000 salariés sur le département.
Bon, c'est énorme. Alors, on a autour de la table aussi les étudiants, parce que on a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une osmose qui est en train de se mettre en place entre le monde du travail, représenté ici par Serge Rakasaki de la CGT 34, et puis vous, les étudiants, qui, depuis longtemps, avaient plein de revendications à faire passer. Et puis là, vous êtes partie prenante. Alors, je vous laisse vous exprimer à qui veut parler. Vous êtes partie prenante de ce grand mouvement qui a l'air de se mettre en place. Alors, oui, allez-y.
Alors, pour nous, c'est très important de faire partie de ce mouvement au sein de l'intersyndicale de l'Hérault pour soutenir les professionnels, les personnes qui travaillent.
Mais vous travaillez aussi, d'ailleurs.
Oui.
On oublie un petit peu, hein, les étudiants.
Plus d'un étudiant sur deux travaille aussi. Et ces étudiants travailleurs, on les soutient aussi avec tous les étudiants mobilisés sur les sites de Montpellier.
On peut dire, pardon,
Ça se passe concrètement,
Françoise,
demain, comment ça va se passer mardi sur les sites universitaires?
Alors, en tout cas, l'université Paul Valéry sera fermée. La présidence a décidé de fermer l'université. Donc, du coup, on ne pourra pas agir sur le campus directement. Mais on va se retrouver dès midi, Place de l'Europe, pour faire, pour installer, etc. Puis mettre un stand de crêpes avec une caisse de grève, la caisse de grève à prix libre pour les crêpes. C'est pas très clair.
C'est important.
Et après, on va partir en manifestation, du coup, avec le cortège de l'intersyndicale.
Oui, parce que c'est très important ce que vous dites sur la solidarité et la mise en place de ces caisses de grève. Parce que, bien évidemment, le 7, ça va être un grand moment, mais il va falloir certainement, face à ce gouvernement, tenir sur la durée. C'est bien ça l'enjeu aussi.
Ah ben Serge, il a été clair. Hein. Je crois qu'il faut que c'est
donc ils
comprennent pas, ils comprennent pas.
Il faut qu'il y ait une solidarité au sein du monde du travail.
Alors, la première des solidarités, c'est d'agir et d'être en grève et d'agir partout, et chacun, chacune peut agir à son niveau. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, on a un gouvernement qui paraît inflexible, mais comme je le disais dans un débat hier, il me fait penser à ce film La Haine. Le gouvernement, il a sauté d'un immeuble de 50 étages avec sa réforme des retraites. Et à chaque journée de grève et de manifestation, il dit « jusqu'à présent, tout va bien, jusqu'à présent, tout va bien, jusqu'à présent, tout va bien ». Donc nous, on va lui apprendre que ce qui compte, c'est pas la chute, mais l'atterrissage.
Alors, au moment où on est là, après, c'est déjà toutes ces journées de mobilisation, de grève, la journée du 7, le 8 aussi sur le droit des femmes, on a envie de se reposer la question, mais pourquoi s'entêter de la part de Macron et de son gouvernement à vouloir imposer ce qu'ils appellent une réforme, ce recul de l'âge de la retraite? Pourquoi ils s'entêtent à vouloir l'imposer alors que, manifestement, la majorité des travailleurs et des Français y sont farouchement opposés?
Mais
qu'est-ce qui les motive, à votre avis?
François, c'est un choix de société. Je me retourne vers les étudiants. Je crois qu'on est face à un problème de société. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut comme société?
Oui, alors le choix de société du gouvernement aujourd'hui, il paraît clair. Déjà, ça commence à l'école, mais aussi après avec l'université. Alors, aujourd'hui, on entend parler du SNU.
Voilà.
C'est le service
national universel, voilà. En effet.
Obligatoire bientôt.
Qui veulent rendre obligatoire. Hein.
Pour militariser la jeunesse et la mettre au pas.
Seconde, première et CAP seraient concernés par cette réforme, hein.
Oui, mais en plus, à l'université, il y a déjà une grande précarité organisée par le gouvernement. On l'a vu sur le refus des repas à 1 euro pour tous les étudiants à l'université. Et ce n'était qu'une aide de 90 millions, mais ça aurait pu permettre d'aider les étudiants à manger. Parce qu'il faut rappeler que quand même 56% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Plus d'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim. Et
puis il n'y a pas que manger, il y a le logement, vous savez, tellement de choses à nous dire, les produits d'hygiène, il y a énormément de choses qui ne vont pas dans cette université, et on fait toujours la part belle aux riches, hein, aux gens qui ont les moyens. On nous montre que la France était formidable, avec des écoles extraordinaires, oui, mais pour qui?
Exactement, voilà. et en fait, tout cela continue, nous, à l'université, on a un problème, c'est qu'il y a la sélection, maintenant aussi, avec Parcoursup, mais bien sûr...
Vous avez d'ailleurs mené des combats au SCUM contre cette sélection. Hein.
Beaucoup contre la sélection, c'est un de nos piliers de combat.
Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se dégradent, des choses qui ne vont pas. Il y a aussi les étudiants qui viennent de loin, qui n'arrivent pas à se déplacer. Enfin, il y a tellement de problèmes. Et apparemment, là aussi, ils sont un peu sourds au gouvernement, comme d'habitude.
Parce que la question de fond, au-delà, ce n'est pas une question philosophique sur quel choix de société on veut, c'est une question de réorganisation économique. Je suis un peu étonné que ça vienne si peu dans le débat public, mais enfin, on est quand même dans une séquence avec une guerre.
Oui.
On est dans une séquence où se pose, comme s'est posé à plusieurs moments dans l'histoire, la question de l'accès à l'énergie, aux ressources énergétiques. Et donc le capital est en train aujourd'hui de rebattre les cartes et de réorganiser. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre se situe dans ce moment-là, dont on ne sait pas ce qui va pouvoir devenir, mais il y a une question de bascule aujourd'hui, de réorganisation du capital autour de ces questions-là qui est en train de se jouer. Et ça, voilà, je pense que ça devrait mieux être pris en compte, en particulier par les forces politiques qui devraient plus s'exprimer sur cette question-là, parce que ça ne fait jamais très bon ménage. On l'a vu, avec une inflation qui galope.
Galopante, oui.
Un refus d'avoir des réformes structurelles. Donc aujourd'hui, on nous parle de panier minimum dans les supermarchés. Et le gouvernement demande gentiment aux distributeurs de pouvoir faire un effort, s'il vous plaît, et de façon extrêmement polie. À part que ça handicape toute réforme structurelle qui aurait un impact en particulier sur le capital. Je pense à la TVA 5,5 sur l'énergie, puisque le coût des produits alimentaires, c'est en particulier dû au surcoût de l'énergie. Et donc, réduire la TVA, ça permettrait d'avoir un effet tout de suite sur les prix. Un blocage des prix organisé par le gouvernement saurait aussi son effet, alors qu'on continue à laisser le marché libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, avec des salariés aujourd'hui à qui on a expliqué que les salaires, il ne fallait pas les augmenter parce qu'il y avait l'inflation, à part qu'aujourd'hui, l'inflation est liée. On sait que sur les produits de première nécessité, on serait plutôt de l'ordre de 14%, 6% en général, 14%.
Oui, tout ce qui est alimentaire, tout à fait.
Et une étude là qu'on vient de me soumettre montrerait 10% supplémentaires à venir, ce qui explique d'ailleurs que sûrement les mouvements de grève sur la question des salaires vont rejoindre le mouvement sur les retraites, parce que les gens, tout simplement, à la fin du mois, ils n'en peuvent plus. Et le gouvernement, il mise sur une chose. La peur de la fin du mois, à part qu'il va falloir qu'ils se rendent compte que les gens, ça fait déjà un paquet de mois qu'ils ont des difficultés de fin de mois. Et donc nous, on les encourage du coup à se mettre en mouvement, en grève, en manifestation avec nous dès demain, le 8 et le 9 si ça ne suffit pas.
Et donc pour les étudiants, votre pouvoir d'achat, il a fait que baisser, nous sommes bien d'accord. Ça devient très compliqué même pour se nourrir.
Ah oui, pour se nourrir, c'est extrêmement compliqué. Avec la précarité, les étudiants ne sont pas du tout pris en compte. Et là, il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent obligés de sauter des repas, voire des jours de repas, parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir.
Samedi, on avait quand même la dernière des Restos du Cœur. Enfin, on en a fait une tête mais enfin, comment on peut supporter de vivre dans ce pays-là
Avec l'aide alimentaire a explosé.
Qui disent, il faut plus d'aide alimentaire. Et les étudiants, aujourd'hui, sont concernés. Toute la jeunesse est concernée. Enfin, il y a eu une alerte aussi du réseau Abbé Pierre. Enfin, toutes les associations caritatives voient les flux exploser. Comment on fait pour supporter de vivre dans ce pays-là? Et à côté, on a des actionnaires dont les dividendes continuent à exploser. D'ailleurs, hier, il y avait un petit récap sur 2010. Et on avait déjà Total qui faisait, ils étaient minables, que 9 milliards de bénéfices en 2010. On voit aujourd'hui qu'ils ont bien su prospérer. Ils font beaucoup plus. Et cela, on les laisse toujours tranquilles. Et donc, on est bien dans cette situation de profonde inégalité sociale. Et donc, il faut que les gens franchissent le cap. Le mécontentement, ça ne suffit pas. Il y a aujourd'hui la possibilité, en tout cas les organisations syndicales, de salariés, d'étudiants, permettent aujourd'hui de pouvoir s'exprimer et à chacun de se mobiliser. Moi, ce matin, on m'a dit, mais manifester, ça ne suffit pas, il va falloir bloquer. Ça y est, c'est parti.
Ça commence donc maintenant. Françoise, on se rend compte qu'il y a une augmentation donc, de ce mouvement. Et puis, quand même, ça fait longtemps que ça dure et c'est toujours comme un mur en face.
Y a aussi une question que j'aimerais poser. C'est en ce moment, le texte du gouvernement qui a choisi un véhicule législatif d'urgence, donc en plus qui restreint le débat démocratique au Parlement. Il est au Sénat et on entend parler maintenant de la capitalisation. Est-ce que, notamment parce que le Sénat est dominé par la droite, mais il dit que cette réforme, c'est la sienne aussi. Et donc, il va falloir, à côté du système par répartition qu'il faut absolument sauver, et c'est, je mets des guillemets, et c'est pour ça qu'il y a on veut imposer 2 ans de travail supplémentaires aux travailleurs, mais il va falloir aussi capitaliser.
Comment ça fonctionne?
Est-ce que ça
peut... Non, mais c'est la suite logique du texte, c'est ce qu'on dit depuis le départ. C'est que ce texte qui vise finalement à abaisser le niveau des pensions, alors qu'on a essayé de nous vendre qu'au départ, on faisait tout ça pour les 1 200 euros. Lesquels? Qui devaient concerner tous les retraités. Et puis finalement, un peu moins, puis un peu moins, puis finalement, ce serait plus que 10 000. Donc, nous, on avait dit à vouloir abaisser comme ça le niveau des pensions ou le niveau de remplacement des derniers salaires, on ouvrait la porte pour ceux qui en auraient la possibilité à la capitalisation. Et puis, il y a l'autre élément qui arrive ce matin avec ce fameux débat au Sénat, qui est de dire, ben, finalement, il n'y aura pas d'économie, en tout cas pas celle voulue, et donc il faudra en remettre une petite couche, une petite rincée, et il y aura une nouvelle réforme des retraites à prévoir, parce que finalement, les 18 milliards qu'on a prévu d'engranger, ça ne suffira pas, et donc il faudra une petite rincée supplémentaire. Ben, c'est sûr, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne s'en prend pas dans les poches du capital et qu'on maintient les salaires à la baisse. D'ailleurs, il y aurait 3% de baisse de salaire si la réforme passe. Et donc, effectivement, le système par répartition, il ne joue que si on répartit la richesse qui est créée par le travail.
Et pour les étudiants, je me retourne à nouveau vers eux. Eux, maintenant, la retraite, ça semble un horizon...
Oui, parce que quand on est étudiant... Quand on est étudiant, donc on rentre en travail ou sur le marché du travail, encore des guillemets là-dessus, parce qu'on pourrait discuter aussi de...
Du statut.
De la conception même du travail. Donc, quand il y a une obligation d'être diplômé et de rentrer plus tard aussi sur le marché du travail, et donc la perspective d'une retraite vraiment de plus en plus lointaine, ça participe aussi de votre motivation ?
Oui, alors, nous, les étudiants... Avec les problèmes de sélection, les problèmes de redoublement aussi, parce que quand on travaille, on a plus d'échecs. Donc comme tout le monde travaille, tout le monde échoue aussi et passe plus de temps à l'université, on a notre premier emploi stable à 27 ans.
C'est ça, c'est la moyenne. Ouais,
c'est ça la moyenne, hein, 27 ans.
Oui, 27 ans plus 43 annuités.
Donc avec la réforme...
Ça fait 70 ans.
En gros, Oh, bah, vous avez le temps de voir venir, alors. Vous avez le temps de voir venir. Non, on plaisante, mais c'est quand même terrible. Et puis ne pas reconnaître aussi beaucoup de le côté étudiant, hein, le fait qu'on fait des études, ça prend du temps, c'est normal. Et puis, comme on leur dit, ils ont bien travaillé. Mais vous ne pouvez pas y travailler, faire des études tout le temps. Il y a une contradiction là aussi dans les discours qui sont prononcés. Oh, mais les étudiants, ils ont qu'à travailler. Oui, mais comment ? Puisqu'ils travaillent déjà en faisant des études.
Oui. Mais le fait d'être étudiant, c'est un travail à part entière. Enfin, ça devrait quand même. Enfin, je pense
d'être un statut.
Ouais.
Il devrait peut-être reconnaître les années d'études comme on fait pour le service militaire, mon cher Serge.
C'est en tout cas ce qu'on demande, la reconnaissance des années d'études et des années d'apprentissage. Mais la question, elle n'est pas tellement là. C'est surtout dans quel état la génération qui arrive va arriver à la retraite. Parce que le débat, ce n'est pas plus 2 ou moins 2. C'est pas ça. C'est qu'autour de 59 ans, selon les professions... Une dégradation de la.
Il y en a qui sont cassés complètement.
L'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est 52, ça peut être 59, 60, 61, 62, et qu'on voit qu'en poussant le curseur à 64, on va avoir des retraités de plus en plus malades. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été chiffré déjà par l'assurance maladie.
Oui.
Et c'est ce qui amène aujourd'hui un surcoût dans les pronostics du gouvernement en termes de retraite. Et pour les femmes. Puisqu'on approche du 8 mars, ce sera la double peine, il faut le rappeler.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Eh bien, écoutez, on a terminé ce petit tour de table. Moi, j'étais ravi d'abord de vous recevoir, comme on le fait souvent à Divergence FM. On ouvre nos micros, n'est-ce pas, aux syndicats, qu'ils soient étudiants ou ouvriers.
Ouvriers.
Vous savez, j'aime bien, parce que je dis toujours que je dis des gros mots, moi. Syndicat ouvrier. c'est des gros mots, ça, Serge. Hein.
Ouais, moi, j'étais dans une famille de gros mots, moi.
Et puis, bon, aux étudiants, ben, bon courage. Et puis, on a bien compris que vous étiez motivé. Et ce que vous craignez beaucoup, Françoise, le gouvernement, c'était la convergence des luttes. La convergence des luttes, ça ne plaît pas en général. Hein. C'est pour ça qu'on a tout fait pour casser le mouvement universitaire. Hein. Vous avez remarqué, on a essayé de mettre de côté, comme quoi vous n'étiez pas dans le mouvement de façon générale.
Vous n'étiez pas légitime.
Vous étiez à part.
Les lycéens aussi. Hein.
Voilà, vous êtes à part. Voilà. Et ben donc, je crois que Serge, on est parti pour que ça ne soit pas le cas. Je crois qu'il y a de l'unité dans l'air.
Tout à fait.